Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons bénir vraiment le Seigneur qui nous fait grâce de nous retrouver une fois de plus en tant qu'Église rassemblée pour le louer, l'adorer et écouter sa parole. C'est sa grâce qui est suffisante, n'est-ce pas? Je vous invite ce matin dans l'Évangile de Matthieu. Nous ferons quelques lectures, mais je nous encouragerai sur quelques versets qui partiront du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu jusqu'au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Pour introduire ce message, nous allons lire Matthieu chapitre 5, des versets 13 jusqu'au verset 17. Voilà. Ce texte vient après que Jésus ait parlé de ce qu'on a communément appelé les béatitudes. Jésus a rassemblé ses disciples pour les enseigner. Et nous avons du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, tout un enseignement de Jésus. Et après cette série où Jésus a utilisé cette expression « heureux, heureux, heureux », il y a comme une forme de conclusion à partir du verset 13. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ce texte de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 17, ouvre toute une série d'enseignements de Jésus. Ce matin, j'aimerais que nous commencions, n'est-ce pas, cette nouvelle étape de notre année calendaire, vu que c'est la reprise bientôt, en tout cas pour tous ceux qui avaient des vacances d'été. Essayons de nous motiver avec cette parole de Jésus lui-même. Vous êtes le sel de la terre. C'est une grande déclaration de Jésus à des gens qui venaient à peine de rencontrer cette foi nouvelle en lui. Certes, ils connaissaient le Dieu de l'Ancien Testament. C'était des Juifs pour la plupart, ou des prosélytes, des gens qui avaient un contact avec la foi des Juifs, mais ce message nouveau, cet éclairage nouveau de Jésus était quelque chose de nouveau. Certains, comme Simon, comme Anne, avaient vu en Jésus le Messie annoncé par les prophètes. Il avait confessé lorsque Marie était venue présenter ce petit enfant au temple. Mais pour beaucoup, ils en doutaient encore. Ils savaient qu'il y avait quelque chose dans ce Jésus, mais quoi? Et Jésus était à peine au début de son ministère terrestre. Il venait à peine de commencer à exercer ce ministère. Et là, il leur donne cette grande ordre de mission. Vous êtes le sel de la terre. Ils étaient situés en Palestine. La Palestine, à cette époque-là, n'était même pas le centre du monde. Pour dire le centre de la terre, mais il dit à ces quelques personnes qui sont devant lui, vous êtes le sel de la terre. C'est une déclaration forte. Jésus savait que son ministère n'était pas que local et que cette parole allait traverser des siècles. Certes, il s'adressait à ceux qui étaient là ce jour-là, mais au-delà d'eux, il s'adressait, comme il a dit dans Jean chapitre 17, à tous ceux qui allaient rencontrer la foi au nom du Fils de Dieu, par le ministère des apôtres et de l'Église. Donc cette parole est une parole éternelle. À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui ont fait le choix de le reconnaître et de le suivre. Parce que même en Palestine, même parmi les Juifs, ce ne sont pas tous les Juifs qui étaient là présents. Ce ne sont pas tous les Juifs qui l'ont suivi non plus. Certains même ont dit, tu es un maudit, parce que tu es un blasphémateur. Tu dis, tu es fils de Dieu? Dieu n'a pas de fils. Et même les chefs religieux ne l'ont pas reconnu, quelques-uns bien sûr, mais pour la grande majorité, ils ont traité Jésus d'un usurpateur. Et c'est pour ça qu'ils ont pu aller jusqu'à ce procès qu'ils lui ont fait. Ils l'ont condamné et ils l'ont livré aux autorités civiles de l'époque. Même si au fond d'eux, ils sentaient qu'il y avait quelque chose en ce Jésus. Parce que plusieurs fois, dans les controverses qu'il a avec eux, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais ce Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, regardons un peu, qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut nous apporter comme impact? Tu peux passer la diapo d'après. Vas-y. Voilà. Les chrétiens, leur fonction dans le monde. Hein, c'est un grand thème. Hein? Nous sommes là à Créteil, dans cette petite localité du Val-de-Marne. Nous sommes une petite église, soi-disant. Et puis, on a une fonction dans le monde. Or, on est ambitieux. Non, nous ne sommes pas ambitieux. Les paroles de Dieu sont fortes. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Et il sait pourquoi il le dit aussi. Si Jésus a dit cela à ses disciples, qui étaient un peu comme nous, un petit groupe, qui ne savaient pas ce qui allait se passer dans les années, dans les siècles qui allaient venir, Jésus leur a quand même dit, vous êtes le sel de la terre. Donc cette parole est aussi pour nous aujourd'hui. Vous êtes le sel de la terre. Le disciple de Jésus-Christ devrait avoir le même effet dans son entourage, l'effet du sel, n'est-ce pas? Le sel est cet ingrédient, on ne sait pas trop pourquoi, mais il passe avec tous les aliments. Il est universel. Il y a le sel dans toutes les cultures du monde, en tout cas pour celles qu'on connaît. D'une certaine façon, chacun a son sel. Le sel n'est pas forcément le même, mais toujours c'est le même effet. Il l'assaisonne, et dans des cultures passées et même présentes où on n'a pas encore de système de réfrigérateur, il conserve les aliments aussi. Donc on dit, il arrête le processus de pourriture, ce qu'on appelle la corruption. Il l'assaisonne et il arrête la corruption. Il arrête la pourriture. Et dans des cultures, comme je l'ai dit, où on n'a pas encore tous ces électroménagers, le sel joue un grand rôle pour toutes les conservations de certains aliments. Alors c'est à dessein que Jésus prend cette image. Puisque nous sommes au premier siècle, il me semble qu'il n'y a pas de réfrigérateur au premier siècle. Et que le sel est un aliment indispensable pour l'assaisonnement, mais aussi pour conserver les aliments pour qu'ils ne se corrompent pas. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Deux images. Nous devons avoir du goût. Nous devons avoir du goût où que nous soyons. C'est un défi, mais un défi qui est possible à cause de l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné. Est-ce que j'ai du goût là où je suis, partout où je suis? As-tu du goût là où tu es? Le goût dont parle Jésus ici, et les apôtres vont le décliner dans les épîtres, c'est que le chrétien, avec ses forces, avec ses limites, avec ses traits de caractère, doit progresser dans son environnement de sorte que sa présence soit une présence qui fait du bien. Qui fait du bien. Notre présence doit faire du bien. Notre présence doit faire du bien. Et nous sommes en progrès. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes, non. Nous sommes en progrès tant que le Seigneur nous garde vivre sur la terre des humains. Es-tu en progrès? Ou vas-tu te mettre en progrès? En tout cas, je prie pour moi-même et pour l'Église que nous puissions continuer de progresser dans cette nouvelle étape de notre année qui s'amorce. Que nous puissions nous dire, la barre n'est pas trop haute. Être celle de la terre, c'est possible et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? On est au régime sans sel lorsqu'on a une anomalie, lorsqu'on a des problèmes de santé en général. Sinon, pour le commun des terriens que nous sommes, le sel nous aide bien. Vous êtes la lumière du monde. Donc, celle de la terre, lumière du monde. Encore un défi énorme. Lumière du monde, n'est-ce pas? La lumière sert à éclairer, elle sert à révéler, à guider, elle sert à réjouir le cœur, à faire vivre. La lumière est l'une des choses que le monde a reçues dès la création, le jour. Et dès la création, les civilisations travaillaient le jour et se reposaient les nuits, même s'il y avait certaines activités de nuit, jusqu'à ce que dans la grâce de Dieu, l'homme, avec son intelligence, découvre et fasse des innovations pour aussi avoir la lumière dans la nuit. Le feu, la lumière, et maintenant, nos villes sont illuminées, n'est-ce pas? Même la nuit. La nuit, sans lumière, on peut faire très peu de choses. On peut quasiment rien faire. On peut quasiment rien faire. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes de ceux qui sont appelés à éclairer. Vous êtes de ceux qui sont appelés à révéler, à guider, à réjouir le cœur. D'abord de Dieu, mais aussi des hommes. Quand on a des pannes d'électricité, on voit tout de suite notre embarras, notre tristesse et notre désarroi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Et on est tous là assis cherchant soit une bougie ou une torche pour nous éclairer ne serait-ce qu'un peu dans le secret espoir que l'électricité, la lumière vienne dans les secondes qui suivent, n'est-ce pas? Et dans certains pays en voie de développement, dans les quartiers populaires, quand le courant revient, on entend des clameurs. On entend des clameurs quand la lumière revient. On entend des clameurs. Les gens sont joyeux parce que la lumière est revenue. Qu'en est-il de nous? Quelqu'un dit, est-ce que ta présence égale à ton absence? On n'est pas des matures vues, c'est pas ça l'idée. On n'est pas là forcément pour se faire voir, pour être pareil. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si on est ce qu'on est, en principe, on doit éclairer. Si on laisse Dieu faire de nous ce qu'il veut qu'on soit, de façon consciente ou inconsciente, on va éclairer. Ne serait-ce que de petits siècles. Hein? Un homme de Dieu disait qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de lampes. Il y a des lampes qui éclairent, je ne sais pas moi, 1 mètre carré. Celles-là, faut pas les mettre dans 100 mètres carrés parce qu'elles n'éclaireraient pas les 100 mètres carrés. Il y a des lampes qui éclairent toute une ville, des stades, c'est incroyable. Mais chacun à son niveau est une lumière pour éclairer là où il y a besoin d'éclairage. Individuellement, nous sommes des lumières. Mais il me semble ici aussi que l'accent tombe sur la communauté chrétienne. Vous êtes la lumière. Donc en tant qu'église, nous devons être lumière là où nous sommes. Pour nous qui sommes à Créteil, dans le Val-de-Marne, ne serait-ce que là à Créteil, ne serait-ce que là où nous sommes, que Dieu continue de nous aider pour que nous soyons lumière. Dans les contrées et parfois dans des zones où il y a beaucoup de végétaux, la lumière attire beaucoup d'insectes, n'est-ce pas? Il suffit qu'il y ait une lumière et plusieurs insectes, même des animaux, sont attirés. Et je pense aussi que cette image est prise à dessein. Mais l'image que Jésus veut fixer, et il le dit dans la suite de ce texte, est-ce qu'une ville qui est située sur une montagne peut-elle être cachée? C'est impossible. Puisqu'elle est située sur un sommet, elle est visible par tout le monde. De ceux qui sont dans la vallée, comme de ceux qui sont dans les airs, cette ville est visible. Un peuple nous dit, bah, si vous êtes des chrétiens, vous devez être visible. Vous devez être visible. Cette visibilité, j'aime à le dire, et je pense que c'est le propos de la parole de Dieu, c'est une visibilité humble. Ce n'est pas du tapage. Ce n'est pas du matu-vu, c'est pas du bruitage. C'est juste que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Et là, notre lumière luira. Continuons donc de progresser vers ce que Dieu veut que nous soyons. Des chrétiens et des chrétiennes matures qui grandissent dans leur pratique de la parole de Dieu, qui grandissent dans l'application qu'ils font de tous les domaines de leur vie de la Bible. Et cette section se termine en disant au verset 16, justement, que nous avons lu, ce verset 16 conclut cette section. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Finalement, l'éclat dont nous devons briller, ce sont nos œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas, nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'aucun de nous n'a des œuvres parfaites pour dire, Seigneur, moi, regarde, tout fait bien. Ça n'existe pas. Mais la parole de Dieu dit, si nous sommes sauvés par grâce, et c'est Jacques qui le dit, nos vies doivent manifester cette grâce de Dieu par les œuvres qui en découlent. Et Jésus aura cette parole forte. Est-ce qu'on peut cueillir de beaux fruits sur un arbre mauvais? Non. Il dit, si l'arbre est bon, logiquement, il donne de bons fruits. En fait, il est en train de dire à ses disciples, vous êtes des arbres qui sont bons. Donc, les fruits qui sortent de vous, ce n'est pas possible que ce soit des mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'un des apôtres a pu dire, peut-il sortir de la même source une eau pure? Et ils nous ont empoisonnés. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. D'une source, soit elle sort une eau bonne, soit une eau qui n'est pas bonne. Que Dieu nous aide. Que nous continuions de produire des œuvres qui soient à la gloire de ce que notre Dieu veut et qui soient ce que nous sommes. Que cela commence dans nos familles. Dans nos relations mari, épouse, parents, enfants, frères et sœurs de la même fratrie, et que ce cercle continue à s'agrandir. Jésus nous en a donné un peu la stratégie quand il a dit aux disciples, acte 1, verset 8, voilà comment vous allez faire la mission. Vous allez commencer où? À Jérusalem, là où vous vivez, dans le petit cercle de la ville, là où vous êtes. Ensuite, vous allez rayonner en Judée, dans la région où se trouve Jérusalem. Ensuite, vous allez aller dans la région au-delà de la Judée, en Samarie. Et bien plus tard, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Commençons là où nous sommes. Faisons tout pour être là où nous sommes, sel et lumière. C'est là que ça commence. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce monsieur qui voulait changer le monde. On dit un jour, il s'est levé et dit, je veux changer le monde. Vous savez, il y a des bonnes motivations comme ça, quelquefois. On ne sait pas d'où ça vous vient. Et puis, il a essayé, mais le monde était trop grand pour lui. Il dit, je pense que je me suis peut-être trop surestimé. Je vais commencer à l'échelle de mon continent. Il a essayé de changer son continent. Là, il a été déçu parce que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de son attente. Il dit, ouais, comme on dit, il faut redéfinir les objectifs. À l'échelle de mon pays, a-t-il dit. Là aussi, il a été bien déçu. Et puis, il semble qu'il s'est assis, il a dit, peut-être faut qu'il soit sage. Peut-être qu'il faut que je commence par ma famille. C'est plus simple. Si je réussis à faire ça, je pourrais être encouragé. Et que parfois, peut-être c'est notre cas. Nous voulons mettre la barre. Alors qu'il faut faire ses preuves là, tout près. Là, tout près. Là, tout près. L'apôtre Jean dit, tu dis tu aimes Dieu. C'est bien. Mais comment déjà montrer que tu aimes ton frère qui est là? Parce que Jean, il est cru. Hein? Il dit, Dieu, tu ne le vois pas. Donc, ton amour, c'est vrai, tu vas la manifester. Mais ton frère que tu vois, ta sœur que tu vois, si tu n'es pas capable de pratiquer cet amour que je t'ai recommandé vis-à-vis d'elle, je doute un peu de comment tu peux m'aimer sincèrement dans ton cœur. Car l'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. Il dit, voici le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui lui est similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus n'est pas qu'un théoricien. Il est le Dieu vivant qui met en pratique ce qu'il nous recommande. Il ne met pas des fardeaux que lui-même il n'a pas vécu. C'est pour cela que l'incarnation de Dieu, du Fils de Dieu, est importante. Sinon, on pourrait dire, ouais, mais Seigneur, quand même, toi, t'es Dieu, tu sais tout faire, tu connais tout, t'as pas besoin, tu nous dis des choses qui sont compliquées. Jésus dit, si vous ne me croyez pas, croyez à cause des œuvres que vous me voyez faire. Croyez à cause de la vie que vous me voyez vivre au milieu de vous. C'est là le but de l'incarnation. Dieu est venu vivre comme nous pour nous montrer que c'est possible. Que c'est possible. On continue plus loin dans notre texte. Comme je l'ai dit, on ne lira pas tout le texte, mais quelques versets choisis. Et là, c'est, voilà, à partir du verset 17 jusqu'au verset 48, mais je vous ai donné juste le début et la fin de cette section. Jésus commence en disant, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. La loi de l'Ancien Testament a des choses que nous ne pouvons plus vivre aujourd'hui. Parce que nous ne sommes plus dans cette époque, dans cette période. Parce que beaucoup de lois étaient liées aussi à l'environnement. Donc Jésus introduit une conception théologique très forte. Il dit, je suis venu pas pour abolir, parce que la loi est toujours en cours jusqu'au jugement dernier. Mais je suis venu pour lui donner un éclairage et le mode d'interprétation de la loi. Et c'est ce qu'il va faire pendant tout le reste de ce discours. Il va donner des applications concrètes. Sur le meurtre, par exemple, quand on prend, et là Jésus le fait, déjà, comme je l'ai déjà dit, Jésus dit, je suis venu pour accomplir cette loi, il a fait cet accomplissement en obéissant. Lui qui est Dieu, et c'est le mystère de la Trinité, et qui devient un homme, obéit quand même. Hein? Il s'est contraint comme un homme, il n'a pas fait les choses comme s'il était puissant, sinon il n'allait pas laisser... les gens l'insulter, le traiter comme on l'a traité. Il a dit, je suis venu pour cette heure-là. Je suis comme l'un de mes frères. Donc, il a été obéissant parfaitement à tous les commandements. C'est pour ça qu'il a pu dire même à ses adversaires, quel est le commandement que j'ai enfreint? Je n'ai enfreint aucun commandement. Je leur ai donné leur vraie compréhension. quand il prend le sabbat, il dit, vous dites le jour du sabbat, un juif doit rien faire. Il dit, c'est pas vrai. Puisque quand même, il y a un minimum de choses que vous faites. D'accord. Il dit, au-delà de ce minimum de choses, vous avez même ajouté des choses. Vous dites, si ta brebis tombe dans un trou, le jour du sabbat, tu as le droit d'aller chercher ta brebis de la sortie du trou. Mais ça, c'est un travail. Pourquoi tu ne laisses pas la brebis pour la sortie lundi matin? Et il dit, vous me reprochez à moi de guérir quelqu'un qui est malade depuis tant d'années, le jour du sabbat. Vous êtes mauvais. Donc le jour du sabbat, interdiction de faire des miracles. C'est incroyable quand même. Il faut être fort pour faire un reproche comme ça. Donc il dit, vous voyez, vous avez dénaturé la loi de Dieu. C'est pour ça, à chaque fois, dans ce texte, il dit, il vous a été dit, mais moi, je vous dis la vraie interprétation des textes. Parce qu'on a aussi, par les recherches, on va dire théologie, on montre qu'en fait, vers la fin, enfin, quand on approchait vers l'an zéro, à cause de la période tragique dans laquelle Israël était, beaucoup de serviteurs de l'ancienne alliance, notamment les sacrificateurs et les scribes de la loi, ont surajouté des commandements sur les commandements qui étaient dans la parole. De sorte que le peuple ne savait même plus quel était le vrai commandement parce qu'on avait surajouté des préceptes. Et c'est ces préceptes-là que Jésus vient écarter. Quand il dit, il vous a été dit, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du mal, il dit, c'est pas vrai. Puisque depuis le Lévitique dit, tu aimeras ton prochain, mais tu feras aussi du bien à ton ennemi. D'où est parti que vous avez dit, voilà. Bref, Jésus remet les choses en ordre. Donc là, il parle du meurtre. Il dit, oui, le commandement dit, tu ne tueras pas, le cinquième commandement. Mais il dit, c'est pas que tu ne tueras pas simplement. Parce que finalement, tuer physiquement vient de tout un processus. C'est parce que tu as pensé, parce que tu as gardé des choses, parce que tu as arrivé à un moment où tu as haï cette personne et tu es passé à l'acte. C'est pour ça qu'il dit que celui qui cultive une pensée négative, terrible contre son frère, il a déjà commis le mal. Et la justice y en tient compte. Hein? Homicide involontaire, homicide volontaire. Ça veut dire que la justice estime que franchement, le crime que tu as posé là, tu l'as tellement bien réfléchi depuis des années que ça mérite une punition plus sévère que celui qui ne l'a pas réfléchi. Donc Jésus dit, tout vient de ce que nous avons dans nos pensées. La recherche de la réconciliation, verset 23-26, il dit aussi, voilà, la réconciliation, être en paix les uns avec les autres, ça doit être un défi constant. Et on ne peut pas toujours dire, on va remettre la réconciliation à demain, à demain, à demain, alors que nous sommes des êtres de relation et que Dieu nous appelle à être en communion les uns avec les autres. Et c'est lié au verset 16, que les hommes voient vos bonnes œuvres. Donc si nous les chrétiens, on n'est pas des êtres et des femmes et des hommes qui aiment se réconcilier, mais plutôt des hommes et des femmes qui aiment garder les rancunes, qui aiment garder les contrariétés, qui aiment dire, oh, celui-là, on verra. On verra. Jésus a allé jusqu'à mettre cette condition dans le Notre Père. Matthieu 6. Si vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est comme s'il y a un obstacle. Si je ne donne pas mon pardon, comment est-ce que je peux demander à Dieu que lui me donne son pardon? Et dans un autre évangile, Jésus prend un exemple et dit, voici ce qui s'est passé. Il y a un serviteur qui devait beaucoup d'argent à son maître. Et son maître a dit, allez le me chercher, parce qu'il m'a dit, il n'arrive pas à me rembourser, faites-le venir. Et le type, il est venu, et son maître dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mais c'est vrai, j'ai essayé, mais c'est dur. Donne-moi encore quelques jours. Je vais essayer encore demain pour te rembourser. Cette fois-ci, vas-y, mais cette fois-ci, tu fais ce que tu as dit. Tiens, merci, mon frère. Merci, voilà. Et puis, le texte dit, il est sorti de là. Et dans son chemin, il a vu quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il dit, mais toi, depuis le temps que je te cherche, là, dans l'instant là, tu me rembourses ce que tu me dois, sinon, toi et moi, on sera à la police, dans les secondes qui suivent. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que le monsieur lui a dit, mais j'ai pas à la police. Et ceux qui étaient là, lorsque son maître lui remettait l'argent, sont lui dit à son maître, tu vois, le serviteur à qui tu as remis, lui, il n'a pas été aussi tolérant avec l'autre. Et le texte dit, le maître dit, reviens par ici. Et c'est cette illustration que Jésus prend. Jésus, il aime les illustrations parce que ça parle plus. Il dit donc, si toi, Dieu te remet des offenses, des choses énormes, et toi, tu te bloques dans le pardon que tu peux accorder à l'autre. Même si le pardon est un processus, ne te bloque pas. Rentre dans ce processus et demande à Dieu de travailler ton cœur pour que tu arrives à lâcher l'affaire. À lâcher l'affaire. Et Dieu est disponible pour t'aider à ça. Pour que, de par vos bonnes œuvres, les gens voient que vous êtes de Dieu et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Tout ce qui est relation amoureuse qui ne sont pas dans le cadre de Dieu, Jésus en parle avec assez de sévérité aussi. Parce que vous savez, tout ce qui est relation amoureuse qui n'est pas dans le cadre de Dieu détruit, blesse. C'est pas juste une question sexuelle. Malheureusement, notre société en a fait juste une question sexuelle. Mais on sait bien que c'est faux. Parce que c'est nos émotions, c'est nos sentiments qui sont touchés, blessés et parfois détruits. Combien de femmes ont été détruites par la tromperie de jeunes gens ou d'hommes qui leur ont émerveillé? Combien d'hommes ont été détruits par des femmes? C'est pas un jeu. Le sentiment n'est pas un jeu. Notre société en a fait un jeu. Un jeu qui continue de brûler les doigts de ceux qui jouent. Combien de jeunes femmes belles, élégantes, qui ont toute l'avenir devant elles, mais qui sont sombres dans leur cœur parce qu'elles ont été blessées, brisées par des relations sans lendemain. Combien de jeunes hommes n'ont plus confiance. Ils disent, oh là là, tu sais, moi le mari, je vis ma vie. Une séparation est toujours douloureuse. Heureusement que Dieu est celui qui restaure les cœurs. Puis c'est aussi, heureusement, il est capable de restaurer. Mais tant que nous pouvons léviter ou aider les autres à léviter, c'est notre responsabilité d'avertir, de dire attention, c'est pas un jeu, c'est trop sérieux. Tout ce qui est parole engagée, 33 à 37, il dit un chrétien, sa parole doit être vraiment quelque chose, quand il donne, il doit réfléchir avant de donner sa parole, avant de s'engager dans quelque chose. Mais s'il s'y engage, il faut qu'il s'en tienne à cela. Parce que c'est le nom de son Dieu qui sera engagé. La sagesse dit, mieux vaut un refus qu'un accord qui ne sera pas accompli. Mieux vaut dire non, plutôt que de dire oui et finalement tu ne l'as pas fait. Et tu n'as pas tenu parole. Il parle aussi de la vengeance. Jésus dit, c'est pas à vous de vous venger, c'est à Dieu de venger. La vengeance, tu ne te vengeras point, n'est-ce pas? Laissez à Dieu les choses. Tu ne vengeras point, ça ne veut pas dire que s'il y a un processus aussi, c'est ça la différence. Se venger, c'est prendre sur soi de faire le mal que l'autre m'a fait. Ça, c'est la vengeance. Par contre, si quelqu'un m'a fait mal, il y a des procédures aussi pour que non seulement il reconnaisse qu'il m'a fait mal et que si c'est nécessaire, qu'il puisse le réparer. Même nous aussi, en tant que chrétiens. Si nous avons fait mal à quelqu'un, nous devons le reconnaître, demander pardon et si il y a une réparation éventuelle à faire, nous devons aussi réparer. C'est pareil. Mais ne pas se venger, c'est ne pas rendre le mal que le type m'a fait. Mais si la société a un cadre légal dans lequel une procédure peut être engagée, j'ai le droit d'engager une procédure, à mon âme et conscience. Parce que l'État, la Bible dit que le magistrat est là pour le bien de chacun d'entre nous, pour régler nos différends en société. Si nous sommes chrétiens, nous essayons déjà de le faire dans le cadre de l'Église. C'est la meilleure chose, simple à faire, avant d'aller en justice, peut-être. Et puis finalement, je l'ai déjà dit, l'amour du prochain, verset 48, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et terminons avec ces deux règles essentielles. La règle générale et la règle d'or. La règle générale, c'est gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est Jésus qui le dit, verset 1 du chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, il touche à tout ce qui est, on va dire spirituel, mais aussi présent dans la société, à l'aumône, à la prière, aux jeûnes, à la richesse, à l'inquiétude. Il dit simplement que notre vie chrétienne, nous ne sommes pas là pour dire ce que nous sommes. Nous sommes là pour vivre ce que nous sommes. On dit le fanfaron, c'est celui qui aime dire ce qu'il est, mais on ne voit pas toujours ce qu'il est en réalité. N'est-ce pas? Et l'adage dit, ce que tu me dis, je l'entends, mais ta vie ne me montre pas ce que tu me dis. Tu me donnes un conseil, mais je ne le vois pas dans ta propre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un, même si on n'a pas l'expérience de la personne. Mais ça veut dire que si on le fait, il faut le faire avec sagesse. Parce que parfois, on est des donneurs de leçons, alors que nous-mêmes, peut-être, on a encore besoin d'y travailler. C'est pour ça que Jésus peut dire, tu vois la poutre? Non. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, donc le petit brin d'herbe qui est dans l'œil de frère. Et toi, tu ne vois pas le gros bout de bois qui est dans ton œil. Juste pour dire, avant de critiquer, avant de faire un reproche, rassure-toi que tu n'es pas pareil. Rassure-toi que tu n'es pas pareil. Si tu es pareil, alors prie pour toi et prie pour la personne en même temps. Et demande à Dieu de vous transformer tous les deux. Et de vous accompagner. C'est ça la règle d'or. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ce que nous faisons, ce que nous sommes, on n'est pas... Dans ma tête, c'est pas... Ah, je veux voir que les gens... Je voudrais que les gens voient que je suis chrétien. Non, non, non. Ça n'a pas de sens. Parce que de toutes les façons, je suis chrétien. C'est ça la vérité. Et cette vie-là, je la vis. Et plus je la vis, plus elle se développe, plus le Seigneur s'en sait. Et la deuxième règle qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ça, c'est un défi. Hein? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Est-ce que c'est simple, cette règle d'or? Mais c'est elle qui harmonise les relations en société. Parce qu'elle me dit, à chaque fois que je vais demander à quelqu'un d'autre, d'être ou de faire ou de voir un trait de caractère en lui, je dois me rassurer que moi-même, je suis sur le même diapason. Ou que moi-même, je suis capable aussi de faire l'appareil pour elle. Si je demande à mon épouse de faire ci, il faut que je sois prêt moi aussi à le faire pour elle. Si je demande à mon enfant de faire ci, il faut que je sois prêt à le faire dans un autre domaine pour lui aussi. Je demande à mon frère, à ma soeur, de le faire, pour que je sois prêt, moi aussi, à le faire pour elle. Et puis quelques avertissements. On redit assez fort l'évangile, n'est-ce pas? Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui l'y trouvent. Nous sommes de ces peu-là et nous devons continuer pour que d'autres aussi trouvent ce chemin. Ce chemin, c'est Jésus. C'est l'Évangile. Ce chemin, c'est pratiquer la parole de Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Les fausses professions, ça c'est un texte fort, Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui pratiquent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Et moi, ce texte, il me parle toujours parce que il y en a qui disent, mais Seigneur, mais nous avons prophétisé en ton nom. En fait, ils disent, mais on a servi l'Église, on a servi l'Église, on a fait des choses au nom de l'Église. Et Jésus dit, je ne vous ai point connu, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Il ne dit pas, vous n'avez pas fait ces choses. Disait bien les textes. Il dit pas non, vous mentez, vous n'avez pas fait ces choses. Il dit oui, peut-être que vous les avez faites. Certainement vous les avez faites. Mais c'est pas ce que vous faites qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Et malheureusement, dans vos vies de tous les jours, vous étiez des serviteurs du péché. Vous serviez, mais derrière, vous ne pratiquiez pas la parole de Dieu. On dit, mais comment ça peut se faire? Eh, frères et sœurs, ça se fait. Regardez simplement votre cheminement. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que dans toutes les situations, nous sommes si simples à dire, c'est la Bible que je vais appliquer? Quelquefois, c'est, oh là là, là j'ai envie de faire à ma propre sauce. Et quelquefois, on fait à notre propre sauce aussi. Alors qu'on sait bien ce que Dieu nous demande. Et on fait autre chose. Mais Jésus dit, c'est pas quand on tombe une fois dedans, c'est pas ça le souci. C'est quand ça devient une pratique de vie. On se dit chrétien et on vit autrement. Donc finalement, on n'est pas vraiment chrétien. On crie partout qu'on est chrétien, mais au fond, on ne vit pas la parole de Dieu. On ne la pratique pas, on ne la met pas en pratique. Ce n'est pas notre cas. C'est juste un avertissement. Soyons sereins. Continuons de vivre notre vie avec tout l'allant de la parole de Dieu. Mais Jésus avertit. L'avertissement n'est pas forcément quelque chose que l'homme vit, ou que le disciple vit, mais Jésus dit, attention, n'est-ce pas? Attention, à ne pas aller vers là. Et puis la parabole des deux maisons, je l'avais déjà dit dimanche dernier, voilà. Il dit, celui qui est sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Il dit, le roc ici, c'est quoi? C'est celui qui écoute la parole et qui la pratique. Parce qu'il dit, il y en a qui écoutent, ah, mais c'était bien cette parole. Ah, vraiment, frère Serge, ce message m'a touché. Ah, frère Adrien, ah, frère Émile, vraiment, ce message, ça m'a fait du bien. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait après quand des cas pratiques où on doit appliquer cette parole se présentent? Est-ce qu'on le fait? C'est ça, le sage. C'est celui qui a cette parole et qui la laisse l'appliquer au moment où les occasions de l'appliquer se présentent. Amen. Et puis, je termine avec ce texte de 1 Corinthiens. 3, 11 à 17. Il dit, pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà placé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. Mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Merci Seigneur. Nous avons la grâce d'être appelés tes enfants. Et sur ce chemin, tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous donnes toujours les conseils au travers de ta parole, au travers de l'Église, au travers de la prière communautaire, au travers de bien d'autres choses dans la vie. Ce matin, nous voulons être des chrétiens. Vivre notre foi chrétienne, progresser pour que nos vies soient à la gloire de ton nom. Et parce qu'elles seront à ta gloire de ton nom, nous serons des bienheureux. Parce que nos vies seront tellement enrichies par toi, restaurées par toi. Bénis-nous ensemble. Bénis chacune de nos familles d'église. Bénis-nous ensemble. En Jésus-Christ. Amen.